là, et comment l'opération a été menée. En tout cas, du côté du palais de Kouloubar, tout est en train d'entrer dans l'ordre pour cette intervention tant attendue aujourd'hui par la population malienne et pourquoi pas même le monde entier. Parce qu'on est maintenant habitué à cela quand il y a des attaques de ce genre, que le président de la République donne les versions, la vraie version des faits, afin que les gens puissent savoir ce à quoi s'en tenir.
Oui. Alors, Kassim, on sait qu'il y a une forte présence de troupes onusiennes au Mali. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quelle est leur mission dans le pays? J'imagine qu'ils ne s'occupent pas de la sécurisation de Bamako.
Non, pas seulement. Hein. L'aménagement, c'est pour la protection des populations et de leurs biens. Mais l'aménagement ne combat pas le terrorisme. Ils l'ont dit, les terroristes, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Et à chaque rencontre avec la presse, ils viennent la déchirer. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en des pareilles circonstances, c'est les forces de sécurité du Mali qui doivent mener l'assaut. Mais cette fois-ci, puisque le Mali avait besoin du soutien, il y avait aussi des commandos américains qui étaient là, qui ont porté main forte. Et c'est quelque chose qui est très bien apprécié par la population malienne, tout comme la force spéciale de la France qui est venue du Burkina, de Ouagadougou plus précisément, pour venir aider le Mali dans cette opération. Sans quoi la ligne d'attaque était menée par la force spéciale du Mali de la DGSE.
Oui, Kassim, une question. Est-ce qu'au niveau de Bamako, on a une idée de ce que cette attaque représente? On sait que chaque fois qu'il y a une attaque comme celle-là, ceux qui la commettent revendiquent toujours quelque chose ou plaident une certaine cause. On sait que l'accord de paix qui avait été signé en mai et juin dernier n'a pas plu aux djihadistes. Est-ce qu'au niveau de Bamako, on sait pourquoi ces gens ont attaqué?
Pour le moment, on ne sait pas, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que les premiers otages qui ont été libérés nous ont fait savoir qu'on leur a demandé de dire la shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah, et ça veut dire déjà que c'est des gens, c'est les terroristes, c'est leur mode opératoire. Maintenant, au-delà de la revendication sur d'autres plans pour faire allusion à l'accord, on sait qu'avant cette attaque, il y a Ira Ghali qui avait fait une sortie au mois d'octobre, mais qui a été authentifié pour dire qu'il ne reconnaît pas l'accord. Il s'est même attaqué à la France et dire qu'il va attaquer la France sur toute la ligne. Et ce n'est pas une surprise. Mais ce qui inquiète les Maliens un peu, est-ce que cela n'a pas un lien avec ce qui se passe en France? C'est d'où l'inquiétude de la population malienne. Parce que si cet attentat avait été revendiqué aujourd'hui par l'État islamique, c'est ce qui allait inquiéter beaucoup plus les Maliens que El Mouaraboutoum, qui est très connu au Mali ici, dont les premiers combattants ont fait leur apparition à Bamako à travers des groupes salafistes qui étaient dans le nord malien, sud algérien. Donc aujourd'hui, pour les Maliens, là n'est pas le problème, mais que faire pour contrer ces gens dans les jours à venir? Équiper les forces de sécurité du Mali, les doter de matériel et amener une bonne gestion et une bonne gouvernance au sein de la hiérarchie même de l'État malien.
C'est des questions que beaucoup se posent, donc on va aller au téléphone. Pour retrouver Samuel Moudoumbi à Bukavu. Sur Facebook, Samuel, vous nous avez écrit et vous pensez que le gouvernement malien ferait mieux de dialoguer avec ces gens qui attaquent les paisibles citoyens. Tout passe donc pour vous par le dialogue?
Oui, merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Mais je suis en train de penser que si une fois on pouvait dialoguer avec ces rebelles, ce serait une façon d'apporter la paix au Mali. Non plus, on est en train de vouloir chasser les rebelles par des armes, ça sera toujours difficile dans le cas où les rebelles n'ont pas... Donc, dans le cas où le gouvernement n'est pas en mesure d'éradiquer directement ces rebelles. Mais si une fois on organise le dialogue, ce sera directement la façon de donner la paix à la population qui souffre du jour le jour, comme a été le cas. Donc, d'une façon brève, je propose la solution de deux manières. Ou soit le gouvernement soit capable d'éradiquer directement le mouvement des rebelles, ou bien on négocie les rebelles pour apporter la paix aux civils qui souffrent du jour le jour.
Voilà, réaction de Samuel Moudoumbi. Vous vouliez dire quelque chose, Amkoulé, sur ce que Samuel disait tout à l'heure.
Oui, je pense que Samuel est en train de confondre, les revendications des séparatistes tels que le MNLA et d'autres qui veulent avoir le nord du Mali et cette attaque de terroristes qui est plutôt liée à un combat religieux ou autre. Donc, je pense qu'il faut vraiment clarifier la situation. Au vu des informations que nous avons pour le moment, apparemment, c'est une attaque qui est liée à des raisons religieuse et non pas séparatiste par rapport dans le nord du Mali.
Voilà, on repart au téléphone avec Haruna Sanou. Haruna, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, votre réaction.
Oui, bon, c'est ce que je disais par rapport à l'attaque barbare qui s'est tenue ce matin. Donc, c'est pour moi, je suis un peu confondu dans la situation, puisqu'on ne peut pas comprendre que comment il se peut que un véhicule, à l'aide d'un véhicule immatriculé diplomatique, permette de pénétrer dans un grand hôtel comme le Radisson et que commettre des attaques vraiment de façon très bizarre. En tout cas, nous remercions les forces armées spéciales maliennes ainsi qu'étrangères qui ont vraiment pu faire quelque chose pour pouvoir maîtriser cette situation.
D'accord, merci infiniment. Merci de nous suivre depuis Bamako au Mali. Je voudrais revenir sur cette intervention du ministre de la Sécurité du Mali que nous avons eue il y a peut-être un peu plus d'une demi-heure, Salif Traoré. Le ministre de la Sécurité du Mali et revient ce soir sur la situation à Bamako.
Disons que la situation est sous contrôle, puisque le dernier assaut a été donné au niveau de l'hôtel Radisson, où les assaillants ont été neutralisés. Nous sommes en train de procéder à la dernière fouille au niveau de l'hôtel.
Oui.
Et c'est uniquement à l'issue de cette dernière fouille minutieuse que nous pourrons communiquer un bilan exact.
Alors, des informations, oui, allez-y.
La situation est sous contrôle. Les mesures de sécurité sont renforcées depuis un moment. Et le chef de l'État va s'exprimer d'un moment à l'autre et d'autres mesures seront annoncées.
Alors, des informations font état de soutien que vous aurez reçu de vos partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Et effectivement, nous avons bénéficié de l'appui de la France, des États-Unis, de l'AMINUSMA et de l'Union européenne à travers le Cap Sahel, sur différentes formes.
Alors, Monsieur le ministre, est-ce que ce genre d'attaque à l'avenir peut être prévenu? Est-ce que vous avez été surpris? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive là?
Il est peut-être trop tôt de vouloir tirer des conclusions. Vous savez, les attaques terroristes... Il faut mettre des mesures en place. Nous avons mis des mesures en place. Nous avons une coopération avec toutes les forces que je viens de citer. Et nous essayons de faire que cela ne se produise pas, mais malheureusement, ça arrive un peu partout. C'est des situations qui sont difficilement évitables, hein, à 100%.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire à la population pour rassurer les uns et les autres?
Nous en appelons justement à la sagesse de la population, à ce sens de la mesure, parce que c'est des situations qui peuvent se produire, mais je pense qu'il peut avoir confiance, puisque aujourd'hui, très très rapidement, les forces de sécurité maliennes sont intervenues, ont pu maîtriser la situation, avant même que nos amis nous offrent leur aide. Donc, nous allons continuer à améliorer nos capacités, nous allons continuer à renforcer la sécurité partout où cela doit être. Voilà.
Monsieur le ministre, on vous remercie pour votre disponibilité. On sait que vous êtes très occupé. Merci encore.
Voilà, c'était donc Salif Traoré, le ministre malien de la Sécurité.
Alors, on va repartir au téléphone pour retrouver Sori Ibrahim Cissé. Sori, vous dites que pas de sécurité au Mali et cela vient d'être prouvé.
Oui, même si on va, même hier matin, il y avait les Nations Unies vraiment qui étaient en sécurité avec le Mali. Mais si on va directement dire à maintenant que vraiment cet attentat vraiment a eu été perpétré sur le sol malien. Parce que même au niveau de la série 2000, disons la vérité, on ne se cache pas, nous sommes tous des Maliens. Parce qu'au niveau vraiment de la série 2000, les Maliens ne veulent pas investir dans leur propre sécurité. Il n'y a pas d'entreprise malienne vraiment qui a eu à recruter un service de sécurité adéquat vraiment à hauteur de sujet. Mais il faut voir quand ces portiers vraiment ont été abattus sur le champ, ça fait vraiment une honte. Un grand hôtel comme Radisson Blue, c'est une honte vraiment pour le Mali. Et un hôtel vraiment de référence, de surcroît. Moi, ce que moi je demande, parce que même au niveau vraiment des autorités maliennes, leur gardiennage vraiment pose problème. Ils ne sont pas en sécurité. Même les services de sécurité, les agents de sécurité, les policiers, les gendarmes, les gardes, quand ils sont en garde, en sécurité directement, ils prennent du thé, ils sont vraiment distraits. Ils n'ont pas vraiment la vigilance absolue que vraiment les forces de sécurité doivent avoir. Tout récemment, au niveau vraiment de l'Angleterre, au Royaume-Uni, depuis l'attentat de Paris directement, les agents vraiment de sécurité vraiment ont été recrutés jusqu'à ce que vraiment qu'on en demande. Alors que pour former, on dit que pour former vraiment un agent de sécurité, il faut à peu près 3 mois pour que vraiment l'agent soit aguerri complètement.
Alors, Sori, pour vous, le problème, c'est quoi? Manque d'hommes ou manque de formation ou manque d'équipement?
Manque de volonté et manque de formation. Parce que les autorités malaises vraiment ne savent pas la valeur vraiment d'une sécurité. Quelle est la vraie valeur de la sécurité? Parce que s'il n'y a pas de sécurité, les investisseurs ne vont pas venir. S'il n'y a pas de sécurité, directement. Il y a une faillibilité vraiment partout. Tout est faillible.
Oui. Alors, vous restez avec nous et on va rester à Bamako avec Kassim. Kassim, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je disais que les gens doivent faire la part des choses parce que tout le problème auquel le Mali est confronté, le Mali n'est pas seul. C'est un problème international aujourd'hui. Tout le monde voit que la France, il y a une semaine, a été victime des mêmes attentats. Aujourd'hui, c'est Bamako, demain, ça peut être Ouaga. Pourquoi pas? C'est le monde aujourd'hui qui est confronté à un problème de sécurité et il va falloir trouver une solution à la gouvernance mondiale même que nous connaissons aujourd'hui.
Oui. Alors, vous l'avez entendu, hein, Sori? Sori Cissé?
Allô, Sori? Voilà, Sori.
Vraiment, nous, hommes du 21e siècle, on a eu à inventer tout pour notre propre sécurité. Cette lettre humaine, quelque soit vraiment son invention, il y a tout vraiment quelque chose vraiment qui y aura des défaillances.
Ouais, y a tout des failles.
Mais les autorités qui sont là, nous en particulier, on peut avoir vraiment des différences. Mais au sein de l'État, s'il y a des différences, parce que si vous dites que l'État n'est pas responsable, il n'y a pas une communication saine au niveau vraiment des structures étatiques. Parce que seul Paris, parce que ce qui est venu à Paris directement, ça vient d'être prouvé parce qu'il n'y a pas vraiment une communication vraiment adéquate entre les États européens. Parce qu'il n'y a pas vraiment cette communication au préalable pour mener à bien vraiment l'affront. Mais si on se laisse comme ça, parce que moi je crois qu'il y a beaucoup vraiment des distractions ou vraiment des forces.
D'accord.
On ne doit pas se dire ça avec ces forces de mal maintenant.
Merci. Merci beaucoup, Sori. On n'a pas beaucoup de temps. Merci pour ta contribution. On sait que quand cette attaque a eu lieu, le président Ibeka se trouvait au Tchad. Et on va partir au Tchad justement pour retrouver Juliette Makanta qui est au téléphone. Juliette, bonsoir.
Est-ce que Juliette est là?
Juliette est en ligne?
Apparemment, on l'a perdu. Hein.
Juliette Makanta, tu es là? Voilà, on va rétablir la connexion.
Alors je voudrais revenir sur cette information. Vous savez, ce soir à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait voter donc une résolution française autorisant toutes les mesures nécessaires pour contrer les djihadistes de l'État islamique à l'origine du carnage parisien. Le projet de résolution demande aux États qui ont la capacité de le faire de prendre toutes les mesures nécessaires pour redoubler d'efforts et coordonner leurs initiatives afin de prévenir et stopper les actes terroristes commis spécifiquement par l'État islamique.
Amkoulé, vous signaliez tout à l'heure que c'est vrai que les djihadistes sont entrés dans l'hôtel Radisson avec une voiture, on va dire, ayant une plaque d'immatriculation diplomatique. Mais vous dites en plus qu'ils avaient aussi des documents officiels.
Tout à fait. D'après le témoignage de Elhaj Amadou Diop, qui était là-bas sur place, qui a parlé avec quelques agents de sécurité, il nous a confirmé que les personnes sont rentrées grâce à ce superfuge-là, mais qu'ils avaient également des documents officiels leur permettant d'avoir accès et rajoutant à la crédibilité. Bon, donc c'était pas juste une plaque. Et je voudrais également réagir, si tu le permets, John,
oui,
à M. Cissé, qui a parlé de la sécurité, les agences de sécurité qui devraient avoir des armes et qui avaient ce manque-là. Mm-hmm. Mais il faut faire une différence entre l'État, l'armée, qui a les armes, et les agences de sécurité privées. Ces gardiens, ils n'ont pas le droit d'avoir des armes, en tout cas pas pour le moment, ils ne l'ont pas. Mm-hmm. Donc on ne peut pas demander à des gardiens, des agents de sécurité qu'on l'emploie individuellement, ou des petites entreprises vont faire, qu'elles fassent face à des menaces terroristes de cette envergure-là. Donc effectivement, il y a un besoin de sécurité, mais il faut que ça soit remis dans le contexte, que ce soit l'armée malienne et les forces de sécurité qui s'en occupent.
Voilà, on va repartir au Tchad. Juliette, bonsoir. Juliette n'est pas là. Allô, Juliette, tu es en ligne?
Allô, je suis à l'écoute.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette situation qui est arrivée au Mali?
Vraiment, c'est trop tragique, c'est trop triste, même comment un être peut mettre fin à la vie d'un être comme lui. Vraiment, certains n'ont pas de remords, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui les passe par la tête? Pourquoi on peut tuer des êtres comme nous? C'est pour gagner quoi à la fin? Quelles sont les récompenses de tout ces comportements? Je ne comprends pas. Des fois, on peut dire que la faute même revient à nos autorités.
Et pourquoi?
Des mesures, là, des choses comme ça ne vont pas arriver.
Quel genre de mesures?
Je ne sais pas. Si vraiment ils essaient de s'unir.
Ouais,
on dit souvent l'unité fait la force, si seulement nos États africains arrivent à s'unir, ils peuvent lutter facilement contre ces terroristes qui sont en train de détruire l'Afrique, mettre fin à la vie des êtres innocents. Imaginons, prenons le cas de leur famille, ceux qui sont décédés aujourd'hui. Imaginons la situation de leur famille, leur cas. Si seulement j'ai un parent là-bas, qu'est-ce que je vais me poser comme question? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais venger? Je vais faire quoi? Ou bien je vais m'énerver contre les autorités? Je ne sais pas. C'est trop triste.
C'est effectivement...
C'est pas bien à voir.
C'est effectivement triste et vous posez beaucoup de questions.
La situation s'est aggravée seulement. Si nos autorités n'arrivent pas à prendre des mesures là, finalement, l'Afrique là va devenir quoi? On ne comprend pas.
C'est une interrogation que nous allons continuer de nous poser et sur laquelle nous allons aussi réfléchir avec vous.
Oui.
Merci beaucoup.
Oui.
Merci beaucoup, Juliette, pour ton intervention. Donc, vous êtes sur la Voix de l'Amérique. Vous écoutez ouais. Donc cette édition spéciale consacrée aux attaques au Mali, Bagassi.
Oui, je voulais juste ajouter, hein, ce n'est pas la première auditrice à souligner cette question de coopération et de collaboration entre les États africains. Et je pense qu'il faudra que peut-être nos autorités, les autorités africaines en charge de la sécurité, commence à y réfléchir. Comment est-ce que les États peuvent mettre leurs efforts ensemble, leurs petits moyens ensemble pour peut-être pour que des soldats maliens puissent traverser la frontière, aller au Niger pour suivre des terroristes quand le besoin se présente, que des renseignements recueillis à N'Djamena puissent être partagés à Ouagadougou ou à Niamey pour un peu essayer de les mettre au même niveau d'information, et cela peut-être peut aider à limiter les effets de ce terrorisme-là.
Et peut-être renforcer le système de sécurité. On a parlé de faux passeports tout à l'heure. De faux documents. On sait que même à Paris, on avait parlé de faux passeports syriens. Et donc, c'est des questions que les autorités en charge devraient prendre très au sérieux. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Vous êtes sur VO Afrique. Nous émettons depuis Washington, D.C., la capitale des États-Unis. À mes côtés pour cette édition spéciale, il y avait Bagassi Koura et puis Amgoulé. Ici Aka, au revoir.